is the time to heal in America.
Voici Raphaël Jacob.
C'est vendredi et c'est l'heure de la chronique rap avec Raphaël Jacob. Salut Raph.
Salut Pat.
Donc on s'éloigne un peu de la politique américaine parce que c'est vendredi un peu plus léger. Tu veux nous parler du rappeur DMX qui est décédé?
Qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 50 ans. Pas parce que je tiens vraiment à te parler de rap ou même de sa musique à lui, mais parce que sa mort et surtout sa vie en dit beaucoup sur la société américaine. Une vie extrêmement trouble. Il a percé en fait dans le monde de la musique dans les années 80, après être sorti de prison, puis en rappant sur son expérience en prison. Il retourne en prison 4 ans après ça, puis c'est après sa deuxième sortie de prison que là, il a vraiment atteint les sommets du monde du rap américain. Puis après ça, vers le début des années 2000, bien écoute, ça a été une arrestation après l'autre, drogue, faillite, violence, une descente aux enfers. Puis à la base, ce type-là, il vient d'une mère de 18 ans, qui avait 18 ans au moment de la naissance, puis d'un père de 19 ans qui voulait rien savoir de lui, qui l'a abandonné, lui puis sa mère. Il était abusé, mis en foyer d'accueil, où sa seule connexion avec d'autres jeunes comme lui, c'était le rap. Puis son histoire, bien, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes hommes noirs encore aujourd'hui aux États-Unis qui partent, disons là comme ça, là, pas avec les mêmes chances dans la vie. Puis, tu sais, pour un DMX ou pour un George Floyd tant qu'à ça, dont on se parle beaucoup à l'émission depuis les derniers temps, il y en a combien de jeunes hommes noirs dont on n'entendra jamais parler? En fait, c'est un peu une question rhétorique que je te pose parce que j'ai des chiffres à te donner là-dessus, okay, que j'ai fouillé aujourd'hui. Aux États-Unis, là, t'as environ 5 % des enfants blancs qui sont nés en 1990, qui ont un parent en prison. Chez les Noirs, écoute bien ceci, là, c'est à peu près 25 %. C'est un enfant noir sur 4 qui a au moins un de ses deux parents en prison. T'as plus de 10 % des enfants noirs qui sont placés en foyer d'accueil avant leur 18e anniversaire de naissance. Puis, le punch, si on veut, peut-être la pire de toutes, on estime, quand on parle de jeunes hommes noirs et d'inégalité, un homme noir sur 3 né aux États-Unis au début du siècle qui va un jour finir par être incarcéré.
Raphaël, deux observations là-dessus. Okay? La première, c'est il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui disent que l'esclavage a beau être terminé, une autre forme d'esclavagisme s'est poursuivie, puis c'est par l'incarcération des populations afro-américaines. Puis la deuxième affaire, il y a des gens qui nous écoutent, là, qui sont peut-être pas au fait, là, de bonne foi, qui disent « Oui, mais écoute, ça fait moins de crimes, ils n'iront pas en prison. » C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je suis allé aux États-Unis à Ferguson quand il y a eu les émeutes là, après qu'un jeune noir
2014.
Ait été tué. Oui, 2014. Ouais. Puis je me rappelle, là, je m'étais fait expliquer par une dame. C'est une afro-américaine qui habite dans un quartier blanc. Elle dit « On se fait pas intercepter par la police. » Mais quand je viens ici, tu te fais intercepter à outrance. Puis j'étais allé chercher les statistiques des quartiers noirs et des quartiers blancs. Écoute, les quartiers blancs, là, t'avais le nombre de tickets distribués, c'était hallucinant dans les quartiers noirs. Dans les quartiers blancs, on avait beaucoup moins. Tu ne payes pas ton ticket, tu te fais arrêter, oups, tu t'en vas en prison. Tu comprends? C'est une spirale qui tu sais, je sais que c'est pas à la mode, là, je sais qu'on n'aime pas ça entendre ça, mais c'est une forme de racisme systémique, le over-policing d'un quartier noir.
Bien, c'est un enjeu qui est au cœur du débat qu'on a aux États-Unis depuis justement la mort de George Floyd. Parce que oui, c'est vrai que techniquement, l'esclavage a été aboli il y a 150 ans, mais les maux que ça a causé, ils sont tellement encore présents aujourd'hui.
Puis tu sais, l'autre phénomène, c'est si t'es noir puis tu te fais arrêter pour le même crime qu'un blanc de 21 ans, si t'es blanc, t'as pas mal plus de chances d'avoir une tape sur les doigts.
Très souvent, en effet. Puis écoute, tant qu'à être dans les statistiques, je peux tout en partager une autre. Celle-là, elle vient pas de moi, elle vient du président Biden. Hier, il y avait une espèce d'annonce là à la Maison-Blanche que tu as sans doute vu sur le contrôle des armes à feu. Le président a parlé de la cause numéro un de décès chez les Afro-Américains de 18 à 34 ans. Je te laisse deviner laquelle. Homicide.
Ah, ben oui.
homicide. C'est incroyable quand tu penses à ça. La cause numéro un de décès encore à ce jour chez les jeunes hommes noirs aux États-Unis.
OK, parle-moi des mémoires de John... comment on prononce?
Boehner.
Boehner. Boehner, ouais. Qui est l'ex-président de la Chambre. Il parle, là, il va parler de son premier match de golf avec Trump avant que Trump soit en politique.
Exact. Je vais t'en reparler la semaine prochaine quand les mémoires vont paraître. Mais il y a cette anecdote-là qui a déjà été publiée, qui a déjà été diffusée, je devrais dire, dans les médias et qui en dit beaucoup. Parce que Boehner raconte que plusieurs années avant que Trump devienne candidat présidentiel, Boehner va faire une espèce de levée de fonds à un club de golf. Ok, il y a trois joueurs. Il y a lui, puis il y a deux types qu'il connaît pas vraiment, qui sont des hauts placés de compagnies d'assurance, qui sont des donateurs politiques, évidemment. Et les trois ont besoin donc d'un quatrième joueur. Arrive Donald Trump pour jouer avec eux, parce que c'est le président du club de golf en question. Et Boehner dit que Trump arrive, il est très amical, mais il est très loud, très intense. Puis au début du match, il demande à un des jeunes staffers de Boehner le nom des deux types avec qui ils vont jouer. C'est Boehner et Trump ensemble contre les deux donateurs. Donc, le jeune staffer répond à Trump, je pense qu'il s'appelle Joe et Jeff. Trump leur dit, ben, Joe, Jeff, enchanté, bon. Puis là, ils jouent leur match et à la fin de la partie, tu sais, il y a une espèce de moment un petit peu, disons, inconfortable quand tout le monde se serre la main puis Trump dit bravo Jeff, bravo Joe. Quand il y en a un des deux qui dit, écoutez, nos noms, c'est Mike pis c'est Dave. Trump a passé la journée à les appeler Joe pis Jeff. Ils ont été trop polis pour le corriger. Fait que Boehner, lui, il part à rire de bon cœur. Puis il se dit, ben, tu sais, écoute, à la limite, c'est leur problème. Oui. Il y avait juste à nous corriger n'importe quand, mais ils l'ont juste pas fait. Ils étaient trop polis. Mais le point de l'histoire, c'est pas ça. C'est que Trump, lui, il arrive pas. Et il marche vers le staffer de Boehner qui avait donné les mauvais noms plus tôt. Puis il se met tellement dans sa face que le jeune, il a besoin de reculer d'un pas. Puis Trump l'engueule. Il dit, quoi, t'es-tu un imbécile? Veux-tu savoir comment te rappeler d'un nom de quelqu'un, du nom de quelqu'un? Puis là, il faut que je te dise en anglais. Il lui dit, you fucking listen. Tu écoutes, C-R-I-S-S. Fait que Boehner conclut cette partie-là du livre en disant, tu sais, j'avais jamais vu quelqu'un traiter du staff comme ça. Puis la colère, qui était très réelle, c'était pour quelque chose de tellement petit. Et j'avais aucune idée à ce moment-là ce que cette colère-là ferait à notre pays.
Et nous, on n'a aucune idée du carillon qui est dans le, qui est dans le background.
T'as-tu un peu choqué toi aussi?
Non, écoute, c'est terrible. Ça fait, je veux te dire, franchement...
Un jouet de ta fille?
Ça aurait dû être ça. Ça fait deux hits que je fais, OK? Ça montre l'efficacité des Comrex, des machines de Cogeco Média. J'en ai fait un ce midi avec la gang du FM 93 à Québec. On entendait les oiseaux dehors à l'extérieur, puis j'avais eu le malheur d'ouvrir une fenêtre. Puis là, je me suis mis un timer pour être sûr de pas défoncer ma chronique. Puis, écoute, il est parti alors que je pensais qu'il était à mute.
Fait que, on dirait un film d'horreur!
Ça va avoir rajouté de l'émotion à la petite anecdote.
Bonne fin de semaine, Raphaël.
Bonne fin de semaine.
17h48, Mario Langlois s'en vient.